L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à tous, au sommaire de cette Hebdo Région, Christelle Morançais au chevet des maires des Pays de la Loire. La présidente de région a terminé cette semaine sa consultation des élus locaux des 5 départements. Des élus qui attendent notamment des efforts dans des thématiques comme l'accès aux soins ou le développement des mobilités. Ne vous fiez pas aux apparences, focus cette semaine sur un produit innovant nommé Inclunea. De prime abord, il ressemble à un sac à main ordinaire, mais en réalité, cette sacoche a été entièrement pensée pour faciliter la communication des personnes qui peinent à s'exprimer verbalement. Objectif, favoriser leur inclusion au sein de la société. L'Action catholique ouvrière réunie à Lourdes, les différentes sections départementales des Pays de la Loire organisent un rendez-vous autour de l'anthropologie chrétienne pour permettre à leurs adhérents de devenir des disciples contemporains dans leur entreprise. Côté SPI, les fidèles catholiques s'apprêtent à fêter la Pentecôte en même temps que leurs frères juifs, à l'occasion de nous intéresser à ce qui rapproche les deux célébrations religieuses. On terminera ce magazine avec une invitation à découvrir notre patrimoine naturel. La 19e édition de Rendez-vous au Jardin a débuté ce vendredi et dure jusqu'à dimanche. Environ 150 parcs et jardins privés et publics ouvrent leurs portes aux visiteurs.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Et avant de développer ces titres, deux infos en bref. Le délibéré du tribunal correctionnel d'Angers d'abord sur l'affaire des balcons effondrés est tombé mardi. 18 mois, 3 ans de prison avec sursis. C'est la sentence qui a été prononcée à l'encontre de 3 prévenus. Le gérant de l'entreprise de gros œuvres mandaté pour effectuer les travaux a écopé de la plus lourde peine. Le chef de chantier et le représentant du bureau de vérification ont également été condamnés, mais dans une moindre mesure. En revanche, l'architecte du bâtiment et le conducteur des travaux ont tous deux été relaxés, les juges estimant que c'est l'exécution et non la conception qui a péché. Le parquet n'a pas encore indiqué s'il allait ou non faire appel de cette décision. Pour rappel, cet accident survenu à Angers en 2016 avait causé la mort de 4 jeunes de 18 à 25 ans et fait 14 autres blessés. Plus de feux rouges, plus de réseaux téléphoniques et internet, plus de paiements par carte. L'agglomération d'Angers a été victime d'une vaste coupure d'électricité jeudi midi. 173 000 foyers et entreprises se sont retrouvés privés de courant de 11h30 à 12h30. Pendant plus d'une heure, le tram était à l'arrêt. Le tunnel d'Avrier sur l'autoroute A11 a dû être fermé à la circulation. Et les pompiers sont intervenus une cinquantaine de fois pour des personnes bloquées dans des ascenseurs. À l'origine de cette coupure, pas de panne, mais une action des syndicats du secteur de l'énergie pour réclamer mais une hausse des salaires. Recréer du lien avec les élus locaux, voilà l'objectif de la tournée terminée cette semaine par Christelle Morançais et son équipe. La présidente de la région et son staff ont rencontré les maires des 5 départements pour recueillir leurs doléances. Au Beurre et Métro, quel bilan peut-on tirer de cette opération ?
Alors forcément, certains élus y ont vu une simple opération de communication. Mais dans l'ensemble, en Vendée en tout cas, ils étaient tous satisfaits d'avoir été écoutés. Parmi les questions qui ont été posées, celle de l'implantation de haltes TER dans différents villages, dans le sud de la Vendée, entre Cholet-les-Herbiers ou encore dans l'est de la Sarthe, l'enjeu de la mobilité est primordial. Christelle Morançais.
C'est la préoccupation numéro un aujourd'hui, et ça c'est, on le retrouve sur les 5 départements. L'enjeu, c'est la région qui est chef de file sur la mobilité, doit accompagner, doit accélérer l'ensemble des territoires. Je suis contrainte en fonction des finances de la région, bien évidemment. On a eu un plan de relance conséquent par rapport à d'autres régions. C'est le plan de relance le plus important au niveau national. Et puis derrière, on a aussi ces contraintes de verdissement de notre parc. Je pense notamment au transport scolaire ou les lignes interurbaines pour avoir des nouvelles motorisations moins polluantes. Et donc ces enjeux-là coûtent très cher et donc on ne pourra pas avoir une gare dans chacune des communes. En revanche, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des élus du territoire.
Autre sujet de préoccupation des élus, la santé évidemment. Le manque de médecins se fait sentir dans toute notre région. Les généralistes partent à la retraite mais ils ne sont pas remplacés. Les spécialistes ne s'installent pas en Pays de la Loire. Et les urgences sont saturées, voire elles ferment, manque de personnel. Pour Christelle Morançais, les décisions pour endiguer cette pénurie de soignants doivent être prises plus haut. Elle l'a redit au maire de Vendée.
Je peux comprendre aussi le cri du cœur des élus sur cette question, parce que les maires, les présidents de communautés de communes, les départements ou même la région, on est confrontés à essayer de trouver tous ensemble des solutions, alors que c'est une compétence de l'État. Moi, j'aurais souhaité que ce sujet soit au cœur des préoccupations de la campagne présidentielle. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'en France, en fonction du lieu où vous vivez, on ne se soigne pas de la même manière. Donc il y a vraiment un grand sujet qui doit être porté au niveau national, parce parce que les maires ou l'ensemble des élus du territoire ne peuvent pas tout porter. Et encore une fois, la santé, il s'agit aussi d'attractivité, de développement d'un territoire. Il y a vraiment un gros sujet qui, je l'espère, sera porté pendant cette campagne des législatives et sera prêt à bras-le-corps avec le nouveau gouvernement.
Alors je précise que ces propos datent d'avant la visite d'Emmanuel Macron et des annonces qu'il a fait à l'hôpital de Cherbourg.
Il y a aussi des sujets plus techniques qui ont été abordés au Berry lors de ces 5 réunions.
La gestion de l'eau par exemple, ou encore savoir si de nouvelles constructions pourront ou non être envisagées. En effet, à partir de 2024, la ZAN, la zéro artificialisation des sols, va entrer en vigueur. Le but, c'est de protéger les terres agricoles et c'est la région qui devra appliquer ce protocole, Christelle Morancet.
C'est la préoccupation numéro un aujourd'hui et ça c'est, on le retrouve sur les 5 départements. L'enjeu c'est la région qui est chef de file sur la mobilité, doit accompagner, doit accélérer l'ensemble des territoires. Je suis contrainte en fonction des finances de la région bien évidemment. On a eu un plan de relance conséquent par rapport à d'autres régions. C'est le plan de relance le plus important au niveau national. Et puis derrière on a aussi ces contraintes de verdissement de notre parc. Je pense notamment au transport scolaire ou les lignes interurbaines pour avoir des nouvelles motorisations moins polluantes. Et donc ces enjeux-là coûtent très cher et donc on ne pourra pas avoir une gare dans chacune des communes. En revanche, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des élus du territoire.
Alors au-delà de la construction de nouvelles usines en Vendée, ce qui inquiète vraiment les maires dans cette loi, c'est de savoir s'ils pourront ou non construire de nouveaux logements au-delà de leur village déjà existant, car notre département attire de plus en plus de personnes et il n'y a pas de quoi les loger.
Au Berry Métro de RCF Vendée, merci. Mathieu Orphelin ne siégera bientôt plus au conseil régional. Un an après le début de son mandat, celui qui est également député de la première circonscription du Maine-et-Loire a indiqué à son groupe vouloir démissionner de son poste. Raison personnelle, depuis plusieurs mois, l'écologiste prend du recul avec la politique. C'est l'insoumise angevine Claire Schwetzer qui prend sa place. Les poules vont enfin revenir dans le Nord-Vendée. Le repeuplement des élevages est enfin autorisé. Un arrêté préfectoral a été publié mercredi. Ça fait 5 mois que les bâtiments sont vides à cause de l'épidémie de grippe aviaire qui a engendré l'abattage de 15 millions de volailles dans le département, l'un des plus touchés de France.
L'Hebdo-Région, initiative.
On sait que la communication n'est pas toujours facile entre humains et c'est encore plus vrai pour les personnes qui ne peuvent s'exprimer avec les mêmes codes que les autres. Pour celles-là, il faut donc trouver des alternatives. L'entrepreneuse Stéphanie Brochet s'est penchée sur la question. Elle a conçu un outil tout à fait adapté, Isabelle Rupin.
Bonjour Bastien. En effet, orthophoniste, Stéphanie Brochet a pris toute la mesure de la difficulté rencontrée par des personnes qui ne peuvent s'exprimer verbalement. Et c'est ainsi qu'elle a eu l'idée de cette sacoche qu'elle nous présente maintenant.
La sacoche Inclunia, elle ressemble à un sac. Et à l'intérieur, vous pouvez retrouver des intercalaires sur lesquels on peut accrocher des images, des pictogrammes ou des photos. L'idée, c'est que la personne puisse pointer ou décrocher l'image pour nous la donner quand elle a besoin d'exprimer quelque chose. Et on peut trouver d'autres fonctionnalités à l'intérieur, notamment un intercalaire emploi du temps pour les personnes qui ont besoin de prévisibilité. On peut aussi retrouver un intercalaire ardoise sur lequel on peut dessiner. Si par exemple on n'a pas d'image sur soi mais qu'on a un message à faire passer. Et il y a des intercalaires transparents aussi dans lesquels on peut ranger plutôt des tableaux de langage où l'enfant va venir pointer, ou l'adulte. Et puis on peut aussi mettre des fiches d'identité pour préciser qui est cette personne, comment elle communique. Après on peut mettre aussi ce qu'on appelle des scénarios sociaux. Là c'est plus pour les personnes qui ont des difficultés avec le comportement social, comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans telle ou telle situation. Pour ça on peut rédiger un scénario social en expliquant, en décryptant précisément la situation, qu'est-ce qui va se passer, comment je dois me comporter dans cette situation, etc. etc. et avoir toujours la fiche sur soi. Puis à l'arrière de la pochette, il y a une poche qui fait office de sac, pour le coup comme un sac à main, dans lequel on peut mettre tout le nécessaire, une carte de bus, des clés de maison, un goûter, un paquet de mouchoirs.
Les usagers de cette sacoche Inclunia peuvent être très variés, comme l'explique Stéphanie Brochet, la conceptrice.
C'est vraiment à destination des enfants et des adultes, c'est pas propre à l'enfant. Il y a 7 modèles. Et donc c'est pour les personnes qui ont peu ou pas de langage. Ça peut être soit pour les personnes autistes, trisomiques, déficientes intellectuelles, des personnes aphasiques, donc ce sont des gens qui ont eu le langage mais qui ont perdu le langage suite à un AVC. On m'a fait la remarque que ça pouvait servir à des allophones, bah oui aussi, en fait.
Et cerise sur le gâteau, cette sacoche Inclunéa est fabriquée à côté de Laval, dans un ESAT cousu main avec des produits français de qualité et garantie à vie.
Le Made in France, on y croit, nous. Et parce qu'en fait, il y a des gens qui font du très bon travail chez nous. Donc pourquoi aller faire fabriquer en Chine ou je ne sais où, alors que ici on a des matières fabriquées de qualité. Hein. Donc là, notre coton, nous, c'est les tissus d'avenir qui nous le font, donc c'est fabriqué chez nous. Hein. Les matières recyclées, recyclables, ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est une démarche plutôt écologique. Voilà. Donc en fait, voilà, c'était vraiment pour promouvoir le savoir-faire français, le savoir-faire des travailleurs en situation de handicap, parce qu'on y croit, nous, très fort. Et fournir un produit de qualité aux personnes en situation de handicap. Ça aussi, c'est important. On ne fournit pas les images, il y a des méthodes qui existent et qui sont déjà bien, mais il n'y avait rien pour les transporter. Donc nous, on a créé un outil de transport, en fait, pour avoir toujours, toujours son outil de communication sur soi.
Cette sacoche Inclunéa est disponible en plusieurs modèles pour en faire vraiment un outil de communication alternative pratique, certes, mais aussi esthétique et donc agréable à avoir avec soi, en plus d'être utile.
Et ce produit rencontre un succès certain alors qu'au tout départ, il avait été imaginé pour répondre à un besoin spécifique d'un patient de Stéphanie Brochet qui en a développé la production justement suite à d'autres demandes. Toutes les infos sont à retrouver sur le site Inclunéa. Merci Isabelle. Gravir l'équivalent de 28 fois la Tour Eiffel dans des escaliers du Vieux Mans, c'est le défi que s'est lancé le Sartois Fabrice Didier le week-end dernier. Une action au profit de l'association Un élan pour Lily Rose qui aide une jeune fille en situation de handicap. Fabrice Didier a donc gravi 587 fois les escaliers des pans de Goron en un peu plus de 21 heures. Et si vous souhaitez vous aussi aider la famille de Lily Rose, sachez qu'une cagnotte en ligne est ouverte sur le site helloasso.com. On reste dans les défis sportifs avec une histoire assez incroyable. Un skipper qui vient de terminer la Golden Globe Race 4 ans après son départ. Marc Sinclair s'était lancé en course en 2018. Il a été victime d'une avarie. Il s'est donc arrêté en Australie pour réparer, mais entre la pandémie et le temps des réparations, il n'a quitté le port d'Adélaïde qu'en décembre dernier pour arriver au sable. Ça tombe bien, le prochain Tour du Monde sans assistance électronique partira à l'automne.
L'Hebdo Région, rencontre avec.
Et rencontre cette semaine avec l'Action catholique ouvrière qui organise une réunion nationale à Lourdes ce week-end de Pentecôte. Toutes les fédérations départementales y participent. Cette année, la réflexion portera sur le thème co-créateur d'un monde meilleur. Bonjour Agnès Millot.
Bonjour Bastien.
L'Action catholique ouvrière, qu'est-ce que c'est au juste ?
Eh bien, la CO rassemble des chrétiens engagés, militants, qui vivent une double fidélité. À la fois une fidélité à Dieu et aux idéaux du monde ouvrier, par exemple la justice sociale et la solidarité. Ils cherchent à témoigner de la bonne nouvelle là où ils sont, dans leur vie professionnelle. Cécile Ruot est la secrétaire de l'Action catholique ouvrière en Sarthe. Elle nous en dit plus sur son fonctionnement et ses missions.
L'Action catholique ouvrière est un mouvement d'église qui regroupe en Sarthe environ 120 personnes et qui donne l'occasion de partager et sa vie et sa foi lors de réunions mensuelles qu'on appelle révision de vie. Un ouvrier, c'est un terme qui est plus ancien, puisque la CO date de 1950. Et donc, à cette époque-là, ouvrier, c'était plus à l'usine, les cadences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations. Ça va être des gens qui sont au travail, en précarité. Ça va être des demandeurs d'emploi, des retraités. Ça va être des gens qui sont aussi avec des petites solutions de boulot. Ouvrier, c'est tout ça. Donc, le terme n'est peut-être plus actuel, mais nous restons, nous, avec... C'est les valeurs qui nous importent. C'est comment on va aider chacun à trouver sa place dans ce monde.
Ces 3 jours à Lourdes seront l'occasion pour les participants de se confier sur leur vie de quartier, de travail ou de famille. Des temps d'échange et de débat sur des thèmes d'actualité sont proposés. Objectif, former les militants à l'anthropologie chrétienne. Ils peuvent ainsi agir comme des disciples contemporains lors de leur retour en entreprise. Et cette année, la CO va aborder 3 grands axes, Cécile Ruot.
Le premier point va tourner autour de la dignité de la personne. Puisque la société génère de la précarité, de la pauvreté. La dignité de l'homme, c'est le respect de la personne. Tout homme est à l'image de Dieu. Le deuxième point tourne autour d'une question plus interne pour le renouvellement du mouvement et la réflexion autour de l'accueil des jeunes. Le troisième point permet à chacun de prendre la parole et donc va aussi permettre la formation avec l'éducation populaire qui nous permet d'ouvrir des sujets. On a eu le sujet sur le revenu universel, on a eu le sujet c'est quoi aujourd'hui, être ouvrier aujourd'hui c'est quoi. Bon, là c'était la laïcité, voilà pour les derniers. On a eu un sujet en 2015 sur l'engagement.
Oui, en ce week-end de la Pentecôte, les membres de la CO ont à cœur de vivre en véritable témoin de Jésus. On pourrait dire qu'ils puisent leur dynamisme dans cette citation des Actes des Apôtres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Car à l'issue de ce rassemblement, les participants se donneront un défi de taille, contribuer à changer le monde.
C'est aussi l'occasion de faire le point sur sa foi, hein, puisque même si on ne va pas nommer toujours notre foi au Christ, on va mettre en pratique nos valeurs chrétiennes. Comment on avance dans la vie, comment on propose, comment on fait part de nos valeurs, de nos projets, hein, pour communiquer ensemble et vivre mieux ensemble. Nous voulons que les membres ACO soient acteurs de leur vie, et donc rejoignent aussi des collectifs pour agir et transformer la société.
Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement ou vous engager, vous aussi, rendez-vous sur le site acofrance.fr.
Voilà pour ce sujet proposé par Agnès Millot de RCF Sarthe. En Sarthe toujours, à La Flèche plus précisément, la chapelle des Vertus menace de tomber en ruine. L'édifice du XIe siècle inscrit aux monuments historiques est rongé par l'humidité. Les toits et les piliers fissurés sont à la limite de l'effondrement. La ville a réalisé un état des lieux il y a quelques semaines et devrait lancer prochainement des travaux pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Aucun chantier d'entretien n'a été réalisé dans cette chapelle depuis l'après-guerre. Et puis l'Université catholique de l'Ouest a un nouveau recteur. Laurent Péridi prendra la suite de Dominique Vermersch à la rentrée prochaine. Il a été officiellement nommé cette semaine par le Saint-Siège sur proposition du Conseil supérieur des évêques de l'UCO. Vice-recteur depuis 2009, Laurent Péridi entend poursuivre l'action de son prédécesseur en poste depuis 10 ans.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
Fait rare pour être signalé ce week-end, c'est la Pentecôte catholique, mais aussi juive. Elle tombe en même temps, deux fêtes bien différentes, mais qui présentent également plusieurs similitudes dans leur célébration. Célia Goetti, bonjour.
Bonjour Bastien.
À partir de dimanche, c'est donc Shavuot, le nom que les juifs utilisent pour désigner la Pentecôte. Et même si on utilise le même mot en français, ce n'est pas du tout la même chose qu'on célèbre dans les synagogues.
Oui, ils fêtent le don de la Torah, c'est-à-dire de la loi à Moïse. On pourrait penser qu'il n'y a rien à voir, mais Olivier Gagné, délégué épiscopal pour le dialogue avec le judaïsme dans le diocèse de Luçon, tient à le rappeler, les deux sont liés.
On fête l'Esprit Saint, on est en pleine joie. C'est une des grandes fêtes de notre liturgie chrétienne. Et on en oublie les origines. Or, aux origines de la fête chrétienne, c'est une fête juive. On l'explique très bien. La première ligne de la lettre des Actes que nous entendrons dimanche, c'est « Quand arriva la Pentecôte ?»
Ce n'est pas qu'à la date qui est similaire, toute la symbolique de ces fêtes se ressemble.
Luc a écrit son texte des Actes en fonction du texte de l'Exode, du don des 10 commandements. Par exemple, il y a les mêmes mots. On est question de bruit, il est question de vent, il est question de feu. Et quand on lit en parallèle le texte de Exode 19, on s'aperçoit qu'il y a une foule nombreuse dans les deux cas et que l'on reçoit quelque chose d'essentiel. Alors le don de la loi, les 10 commandements, et le don de l'Esprit Saint.
Ça c'est dans les textes, mais concrètement, comment cette fête est célébrée chez les Juifs ?
La journée est dédiée à la méditation sur les textes, l'étude est au cœur de la pratique juive, mais on se retrouve aussi à la synagogue, nous explique le père Olivier Gagné.
On évoque le son du chauffard, le cor, etc. Donc on fait toute une liturgie où on rappelle le don de la loi. Il y a vraiment quelque chose d'important parce qu'à ce moment-là, le Seigneur a gravé sa loi dans la pierre. Et nous, la différence, c'est que on peut dire qu'aux Actes des Apôtres, dans cette scène de la Pentecôte, c'est le feu qui vient nous brûler le cœur. Pas simplement brûler des pierres, hein, puis inscrire des lois, mais brûler notre cœur. Et c'est un feu qui n'est pas un feu destructeur.
D'ailleurs, cette symbolique du feu, le père Gagné l'utilisait lors de ses célébrations de la Pentecôte en allumant un brasier au cœur de son église entre l'Évangile et la communion.
Oui, parce que c'est bon à savoir, mais la Pentecôte, c'est aussi l'occasion de nourrir notre foi des traditions juives dont elle est tirée.
Tout à fait, c'est ce que recommande Olivier Gagné, et c'est pour ça qu'il s'implique dans le dialogue interreligieux vendéen.
Ça serait intéressant que dans les homélies, moi c'est ce que je ferai quand je ferai mon homélie, moi, à Talmont, c'est vraiment de faire ce parallèle avec l'histoire du peuple juif, parce que ça donne une dimension encore plus profonde à notre fête. Et dans l'importance du dialogue entre les juifs et les chrétiens, c'est un élément essentiel de ne pas faire commencer notre foi simplement aux évangiles, mais de voir tout ce que nous avons reçu de nos pères dans la foi. C'est pas pour rien que Benoît XVI a dit que les juifs étaient nos pères dans la foi. Et on a parfois oublié cette filiation. Or, Jésus, qui était un juif, s'est nourri déjà de cette foi juive. Et donc, il faut que nous aussi, on puisse l'honorer.
Une filiation que l'association interreligieuse Dialogue pour la paix tente d'entretenir en Vendée grâce à des rencontres et des conférences.
Célia Goetti de RCF Vendée, merci, on passe à la sortie.
L'hebdo-région, si on sortait.
Les amoureux de nature vont s'en donner à cœur joie ce week-end. L'opération Rendez-vous au Jardin a lieu jusqu'à dimanche dans les Pays de la Loire. 144 lieux ouvrent leurs portes au public dans la région. Des jardins japonais, des parcs monuments historiques, des serres tropicales expérimentales. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Certains jardins privés seront accessibles pour la première fois. Guillaume de la Chapelle est directeur de la communication de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Au micro d'Anthony Torzek, il évoque la richesse de ce patrimoine et ses spécificités dans la région.
Il y a quand même une grande part de jardins privés. On est à 50-50 entre privé et public, avec une grande part de jardins de château en Maine-et-Loire notamment.
Quand on dit jardins privés, ce sont essentiellement des jardins dans des châteaux, des manoirs, des grandes demeures, quoi.
Oui, mais il peut y avoir aussi des particuliers qui vont ouvrir. Alors, ce n'est pas la majorité, mais des particuliers qui ouvrent leur jardin au public, qui le font découvrir par leur passion, par leur spécificité autour d'une thématique.
On n'a pas de Versailles sur les Pays de la Loire, mais est-ce qu'il y a peut-être un ou deux jardins appréciés des touristes ?
Oui, je pense qu'on peut citer bien sûr le château du Lude, enfin les jardins du château du Lude en Sarthe, qui est un des lieux les plus visités, je pense, dans la région. Mais on peut parler aussi des jardins du château des Arcis, peut-être un peu moins connu en Mayenne, mais qui est aussi très dynamique et qui propose toute une variété de petits parcs, de petits jardins thématiques ouverts au public.
Les rendez-vous au jardin, c'est donc du 3 au 5 juin, c'est ce week-end, avec un thème comme chaque édition. Et cette année, c'est les jardins face au changement climatique. En quoi le ministère de la Culture s'intéresse à cette question du climat ?
Comme tout le monde entier, je pense que c'est une question qui est importante, mais qui touche particulièrement les parcs et jardins. Aujourd'hui, les effets du changement climatique se font sentir auprès des jardiniers et ils veulent montrer ça aussi au public. Le fait d'arriver à s'adapter, adapter les pratiques du jardinage à l'évolution des saisons, puis aussi que les jardins demeurent des réserves de biodiversité. Voilà, ces deux aspects, c'est à la fois montrer comment aujourd'hui on peut adapter son jardinage à l'évolution des saisons, à l'évolution des espèces aussi, mais aussi rappeler l'importance des parcs et jardins dans notre pays en termes de réserve de biodiversité.
Est-ce à dire que le ministère de la Culture demande justement des engagements sur cette question-là du climat aux propriétaires de jardins, à la fois publics et privés ?
Oui, c'est un des critères qui constitue le label Jardin Remarquable. Le ministère reconnaît ces jardins comme vraiment de grande qualité. C'est un label parmi d'autres. Et puis, c'est aussi une question qui se pose sur les jardins qui sont monuments historiques pour le soutien que l'on peut apporter au ministère de la Culture.
Quand on voit l'évolution de ce climat, les perspectives surtout, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces parcs et jardins, et en particulier dans la région des Pays de la Loire ?
Oui, on peut s'inquiéter, à la fois être optimiste, parce qu'il y a quand même toujours une grande diversité de jardins dans notre région, mais s'inquiéter dans le sens où les propriétaires vieillissent et lorsque un propriétaire arrête, un jardin disparaît. Il dépend aussi du propriétaire et du jardinier. Si ce jardinier n'est plus là, il n'y a plus de jardin.
On a l'impression quand même qu'avec la crise que l'on vient de passer, la crise Covid, on est revenu à cet intérêt pour la terre.
Oui, je crois qu'il y a un renouvellement de l'intérêt du public pour le jardinage, pour le retour à la terre. Alors bien sûr, on a eu ce phénomène de personnes qui partaient des villes pour venir s'installer dans notre région à l'ouest, etc. Mais aussi un retour effectivement à l'intérêt de jardiner, de retrouver la terre, et c'est plutôt positif.
Alors pour avoir le programme complet de ces rendez-vous au jardin ce week-end dans les Pays de la Loire, comment il faut faire?
Donc, soit tapez dans votre moteur de recherche rendez-vous au jardin et vous tomberez sur le site internet dans lequel il y a l'ensemble du programme, ou alors trouvez la brochure des rendez-vous au jardin spécial Pays de la Loire que nous vous avons concoctée et qui est disponible soit dans les offices de tourisme, soit dans les parcs et jardins qui ouvrent.
La 19e édition des rendez-vous au jardin, c'est jusqu'à dimanche dans les Pays de la Loire. Voilà, c'est la fin de cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.